la vocation des communautés présentes sur la colline de Belloc. Retransmission de la table ronde du 10 février 2023 à l'abbaye de Belloc en la fête de Sainte Scolastique. Aujourd'hui, nous vous proposons la deuxième partie de cette table ronde avec l'intervention du prieur de l'abbaye Notre-Dame de Belloc à Urte, le frère Jean-François d'Allemand. Le thème de son intervention, des hommes sur la colline de Belloc, la spiritualité de Saint-Benoît, le frère Jean-François d'Allemand.
Donc il me faut parler de la spiritualité bénédictine, et pour parler de la spiritualité bénédictine, j'ai cherché d'abord quand est-ce qu'est apparu ce mot. Un repère, déjà, bénédictine, ça fait référence à Benoît. Benoît est né en 480. Le mot spiritualité bénédictine n'apparaît qu'à la Renaissance. Donc, vous voyez, il y a eu presque 10 siècles où le mot n'apparaissait pas. Donc, parler de spiritualité monastique bénédictine demande de se référer, évidemment, à la vie de Benoît, et puis au directoire qu'il a écrit, que l'on appelle aussi « règle », mais le mot « règle » aujourd'hui a une autre consonance à nos oreilles. Pour rester dans l'esprit de l'époque, le mot « directoire », c'est ce qui colle le plus juste. La deuxième référence serait évidemment de parler de la vie de Saint Benoît, qui a été écrite par Saint Grégoire le Grand, qui n'a jamais connu Benoît, et qui a écrit sa vie bien des années et des années après. Et donc, dans son livre « Les dialogues », il écrit ça vers 593-594. On ne sait pas trop ce qu'on a pu lui dire sur Benoît, quoi. Et donc, il s'est fait presque un petit roman sur le personnage de Benoît, une légende pas dorée, mais enfin, voilà. Et puis, il y a une troisième référence importante pour parler de spiritualité bénédictine aujourd'hui. C'est ce petit document. Plus c'est petit, plus c'est important. Et donc, c'est plus facile à lire. Un petit format A4, en 3 volets, gros caractère. Ce petit document s'appelle la Concordia Caritatis, la concorde dans l'amour. Pour les marins, c'est une feuille de route. C'est une feuille de route à partir de la règle. Alors, cette règle bénédictine, quand on l'a remise la première fois entre les mains, c'était frère Marc, en 1980. Imaginez un livre pocket, vous voyez les livres pocket de poche, avec le texte en français et le texte en latin, donc c'est à peine épais, l'épaisseur d'un doigt, pas plus. Et comment ce petit directoire, comment il est né déjà, première chose, et puis quel impact il a eu. La première chose qu'on doit dire déjà aussi en introduction, c'est que la vie monastique n'est pas l'apanage du christianisme. Et je dis cela parce que dans d'autres religions, le judaïsme, bien sûr, et puis des courants philosophiques dans d'autres pays, en Asie et ailleurs, il y a eu cette recherche d'un absolu, d'une vie appelant, interpellant l'homme pour une conversion intérieure, c'est-à-dire se mettre à l'écoute de la voix, ce qu'on appelle la voix intérieure, cette petite voix qui vous interpelle dans votre conscience ou qui vous appelle à faire... une chose importante, et qui envoie, c'est plus court qu'un SMS, c'est un mot, c'est « tiens, il y a ça à faire, ne manque pas de le faire ». Mais l'SMS, il reste gravé sur votre portable, tandis que là, la voix, quand elle a envoyé son message, elle ne vous le répète pas 2 fois. Et puis, vous en tenez compte, c'est parfait, vous dites « ah ben c'est pas trop mal, j'ai réussi à faire quelque chose de compliqué, et je ne voyais pas trop comment, en suivant cette petite intuition que j'avais, et puis si je n'ai pas tenu compte, eh bien je peux me planter carrément ». Donc cette petite voix intérieure, c'est un frémissement dans lequel il faut bien prêter l'oreille. Alors l'oreille externe, mais l'oreille aussi interne, et l'oreille du cœur. Donc, cette voix intérieure appelle l'homme à une conversion intérieure. Le mot conversion, je prendrai ce mot parce que quand vous faites du ski, on vous apprend à faire le chasse-neige, et puis après, on vous apprend à mettre les skis bien en parallèle, et puis après, on vous apprend à faire une conversion. Eh bien, c'est exactement cela. cet exercice physique qu'on apprend aux jeunes skieurs à faire une conversion, c'est-à-dire à planter ses bâtons derrière, passer un ski devant l'autre pour changer de chemin, aller à droite ou à gauche, eh bien, une conversion, c'est cela. Il faut que je prenne une stabilité, que je me fasse une réflexion, une analyse, pour reprendre le bon chemin, parce que je sens que par là, c'est le mauvais chemin. Et donc, la séparation au monde du monde, pourquoi? Ben, c'est tout simplement pour prendre une indépendance. Et cela demande, j'allais dire, une analyse personnelle et ne pas avoir peur de sortir d'un cocon, d'un milieu protégé, voyez, qui peut être étouffante. Et si on ne s'en aperçoit pas, eh bien, on ne s'épanouit pas, quoi. Autrement dit, quand une graine est plantée dans une n'importe quelle terre, il faut que la fleur sorte, quoi. Voilà. Il faut que votre fleur sorte là où vous êtes planté. Planté, c'est-à-dire enraciné, hein, évidemment. Cette séparation du monde appelle du coup une ascèse. C'est des mots que j'ai découverts ici à Belloc quand je suis arrivé. Je n'avais jamais entendu parler de cela ni à l'école ni ailleurs. Le mot ascèse, je vais prendre l'image du forgeron. On lui donne une barre de fer brute, minerai de fer solide. Il doit la passer au feu et le fer devient rouge et il peut s'assouplir à ce moment-là. Autrement dit, le feu, c'est le feu de l'amour, le feu de l'épreuve, le feu aussi du combat, toutes les images qu'on peut mettre derrière ce mot feu. Et puis, il vous fait travailler. Et là, c'est à vous à donner la forme de ce que vous voulez. Quand le fer aura refroidi, il ne va pas bouger. Autrement dit, l'ascèse, si elle est bien vécue, elle vous donne une bonne forme. Et n'ayez crainte, si le démon vient vous frotter un petit peu là-dessus, il va se cogner sur une barre de fer, ça va lui faire mal. Autre aspect de la vie monastique qu'on retrouve dans toutes les religions, je campe là-dessus pour l'instant, c'est un regroupement d'hommes, de femmes, des fois femmes et hommes, des fois il peut y avoir même des couples, ça s'est vu dans l'histoire, qui vivent dans un lieu. Et donc, l'importance de choisir le lieu, choisir sa terre pour planter cette petite graine. Ce qui fait que parler de spiritualité, c'est parler d'une personne, déjà, qui aspire de tout son être à atteindre un but dans sa vie. Ce but, il est un pour lui, qui touche son être et il va prendre le temps pour se mettre en chemin. Et en chemin, eh bien, il doit renoncer à tout ce qui n'est pas indispensable pour se concentrer uniquement sur ce seul et unique but. Pensez au pèlerin. Le pèlerin, quand il part, il sait très bien que dans son sac à dos, tout compris, ça ne doit pas dépasser 10 kilos. S'il s'amuse à mettre plus, au bout de très peu de kilomètres, il prendra son sac à dos et puis il va vider, 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 vider les choses. Voilà. Donc, l'ascèse, c'est justement savoir vider, vider certaines choses pour continuer le chemin. C'est ça le plus important. Et donc, la spiritualité est une possibilité de vivre autrement, qui vient donc réorienter les grandes pulsions de l'être humain. Voilà ce que j'entends et voilà ce que nous pouvons entendre par ce mot spiritualité. La vie bénédictine, là-dedans. Ben, la vie bénédictine, ça fait référence à Benoît. Benoît, c'est un mot qui signifie que cet homme était béni. Béni. Ça veut dire qu'il a connu un amour qui l'a permis d'être ce qu'il est, et au nom de cet amour, de pouvoir se mettre en chemin en quittant le berceau familial, en quittant père et mère, en sachant faire ce départ, le petit oiseau qui sort du nid. Benoît est un Romain. Les Romains, par rapport à d'autres, ont l'intelligence de savoir organiser les choses. C'est des organisateurs. Ils structurent les apports. Et les apports, ils vont les chercher partout, très très loin. Dans cet empire romain d'Orient et d'Occident, il y avait une capitale de l'empire qui était à Rome, l'autre était aujourd'hui Istanbul, vous voyez, Constantinople. Eh bien, ces hommes, avec cette structure-là, ils ramassaient ce qui était bon, qui était bien, qui était beau. Et puis, ils les amenaient chez eux et ils structuraient leur vie sociale avec tous ces apports d'ailleurs. Eh bien, Benoît, je le compare un peu à une abeille aussi. C'est un homme travailleur, Benoît. C'est un homme qui aime. Le labeur ne lui fait pas peur. Il ne passe pas sa journée au lit ou devant un portable pour jouer là-dessus. C'est un homme qui aime le travail manuel, qui aime le travail intellectuel. Et Comme l'abeille, il passe de fleur en fleur et il ramasse pour faire un miel. Benoît, de son époque, il y avait plusieurs règles pour les chrétiens qui proposaient cette vie qu'on appelle aujourd'hui vie monastique. Il y en avait au moins 4, 5, 6 qui circulaient dans le bassin méditerranéen. Et ce bassin méditerranéen, c'est un sang giratoire très très fréquenté. Donc la communication se fait à grande échelle et très vite. Les apports de ces règles venaient autant d'Orient que d'Occident. En fait, le but, c'était de stimuler les baptisés à vivre avec audace l'évangile aujourd'hui. La vie monastique a comme projet uniquement cela, vivre avec audace la vie de l'évangile aujourd'hui, se mettre à l'écoute de cette parole-là. Les apports de ces règles ont fait que Benoît, très très vite, a découvert, il était chrétien, mais a découvert l'importance de vivre avec conviction sa vie chrétienne au moment où il a été confronté, en allant à Rome pour faire des études, à ce que peut être la fin d'un empire, la décadence qu'il peut y avoir dans des civilisations où c'est la banqueroute, mais alors la plus totale, absolue. Voyez? Devant cette expérience très dure qu'il a vécue, il a eu peur pour lui, c'est-à-dire qu'il a vacillé. Si je reste, je vais me comporter comme les autres et ça ne sera pas mieux. Il faut que je fuie, il faut que je parte. On voit que c'est un homme qui donc a quitté le monde de l'intelligentsia qui était à Rome à l'époque. Donc il a quitté étant ignorant parce qu'il n'a pas poursuivi ses études, faisait tout jeune romain de l'intelligentsia de l'époque. Mais c'est un sage en même temps. Et donc Benoît, on peut dire que c'est un sage ignorant. Voilà. Et dans sa sagesse, on peut dire aussi qu'il y avait trois axes. Le chiffre 3 est très important. C'est comme un trépied. Et il s'est assis sur ces trois axes pour cheminer sur ce projet de vivre sa vie chrétienne. Voilà son but, sa visée. Le premier axe, c'est de découvrir en lui que sa quête était singulière, c'est-à-dire qu'elle interpellait sa personne, la personne humaine qu'il est. C'est la première expérience qu'il fait. Et comme c'est quelque chose de très personnel, il va le vivre pour lui, c'est-à-dire en solitaire. Aujourd'hui, on dirait un ermite. Il se retire. Alors, là où il était, imaginez, il y avait des tas de grottes naturelles où les gens habitaient. Donc, il a occupé un espace qui était libre. Ça n'avait rien de très original, parce qu'il y en a plein d'autres qui faisaient la même expérience que lui. Benoît, ce n'est pas un original. Mais il avait cette conviction que pour vivre son expérience, il fallait vivre seul sous le regard de Dieu. Or, pendant cette expérience-là, il ne s'attend pas à certaines choses. Il ne s'attend pas à rencontrer un moine qui vient le voir et qui lui dit, mais est-ce que tu vis? Eh bien, je vais te donner une tunique vestimentaire pour dire que tu vis cela. C'est ce qu'on appelle l'habit monastique, tout simplement. Vivant seul avec le seul, Benoît va vivre aussi des combats très très forts qui vont l'amener des fois à subir des tentations violentes, et comme c'est un homme très entier, des tentations pour calmer le feu qui l'habitait, il n'a pas hésité à se jeter dans un nid d'ortie. Je ne vous dis pas le délice qu'il a eu pour sa vie de calmer le feu qu'il avait. Le diable lui faisait penser des choses un peu comme Ulysse a accroché à son mât de navire et puis les sirènes qui tournaient autour de lui. En se plongeant un petit peu dans les orties, on est vite remis à l'heure. Voilà, donc Benoît, c'est un homme qui n'a pas été épargné par ses sens. Voilà. Le désir spirituel de Benoît, toujours à cette période-là, c'est qu'il n'avait pas peur d'éprouver, mais en même temps, il faisait un discernement. Qu'est-ce que cela veut me dire? Voilà. Qu'est-ce que j'entends intérieurement, toujours? Et c'est ainsi qu'on se met à l'école de la sagesse, c'est-à-dire on est d'abord un écolier. Et puis, c'est à l'école qu'on apprend, en forgeant qu'en forgeron, et que d'autres vont vous demander, mais comment tu fais? Et puis, ils vont vous mettre ce qualificatif de maître. Mais le seul maître, c'est celui qui vous enseigne. Voilà. Les personnalités qui étaient rayonnantes à l'époque de Benoît, c'est Augustin, évêque d'Hippone, Cyprien de Carthage, Ambroise de Milan, Jérôme, Cassien, Basile. Voilà. Alors, on les appelle les pères de l'Église, c'est-à-dire ce sont des personnes qui marquent encore aujourd'hui et plus que jamais la spiritualité chrétienne. Dans son directoire qu'il propose aux baptisés, il commence par un mot. Quand j'ai lu pour la première fois cette règle donc dite de Saint Benoît, ce mot a été pour moi un véritable électrochoc. C'est le verbe écoute. Écoute. C'est l'oreille. L'oreille dans le corps humain, c'est un véritable petit laboratoire. Hein. Vous entendez les médecins qui peuvent. L'oreille, c'est un capteur ultra puissant, ultra sensible, où il y a beaucoup de choses qu'on soigne uniquement à partir de l'oreille. L'oreille, ça vous renvoie évidemment à l'oreille du cœur. Vous voyez, l'oreille intérieure. Le mot écoute, ça nous renvoie aussi au premier mot de la Torah dans la Bible. C'est-à-dire se mettre en chemin vers le Seigneur commence d'abord par prêter l'oreille. Fais appel à tes cinq sens pour aller vers ton intériorité, ta quête intérieure. Voilà. Les cinq sens sont là comme des capteurs qui vous amènent après vers l'intérieur. Et de l'intérieur, va vers l'extérieur et tes cinq sens vont t'aider à cheminer. Donc Benoît écrit ceci: écoute, ô mon fils, les préceptes du maître et prête l'oreille de ton cœur. Prête, vous voyez, rien n'est imposé. Tout est en finesse comme cela chez Benoît. Il existe à ce moment-là un véritable dialogue qui se manifeste. Benoît tutoie. Benoît, quand il parle des moines, il dit pas tellement, il y a plusieurs genres de moines, il dit, mais après, il dit toujours frère. C'est très intentionnel. Ça donne beaucoup une idée importante du rapport qu'il a. Pourquoi? Parce qu'on est tous sous le regard de Dieu. Et tous, nous devons accomplir sous le regard de Dieu cet évangile, nous laisser conduire par l'évangile. Comment caractériser cet itinéraire spirituel? Eh bien, on peut le caractériser d'abord comme étant une dynamique intérieure et puis une ascension. Une dynamique intérieure dans ce sens où Benoît parle très vite du mot course. On ne perd pas de temps. Le temps est court. La course solaire qui nous donne l'heure de la journée, le temps pour une journée, eh bien, le soleil, lui, ne s'arrête pas. Il court, le soleil. Un petit exemple, s'il y a une confrontation, si on n'est pas d'accord avec un frère et que ben, voilà, on est des hommes, ça sort, on peut s'engueuler, on tient tête, etc. Benoît va exiger qu'avant la fin du coucher du soleil, une parole de réconciliation soit donnée. Et le soleil, quand il se met dans sa course, il perd pas de temps, il revient jamais en arrière. Lui, il va toujours en avant. Et donc, vous n'avez pas intérêt à camper sur un désaccord, quoi. Voilà. Parce que vous allez, un, mal dormir, et puis le lendemain, ça sera compliqué, quoi. Voilà. Donc, il faut mieux régler les choses dans la course solaire. J'ai trouvé ça très, très beau de savoir se repérer, rien que déjà par la nature, pour pouvoir diriger sa quête personnelle. L'autre élément, il le prend avec ce terme combat. Voilà. Ça nous renvoie dans les scènes bibliques au combat de Jacob. Jacob qui combat contre lui-même, en fait, parce qu'il est pas très. Il a sa conscience qui lui rappelle qu'il a fait un tour de cochon à son frère et que c'est pas très correct et Dieu n'est pas très con. Enfin, j'allais dire, il lui demande des comptes. Et donc, dans ce fameux combat de Jacob, c'est Jacob qui se bat contre sa conscience, quoi. Voilà. Et il en est marqué. Et deuxième élément important, c'est la notion de transformation. Pour Benoît, parler de changer, c'est de la pure utopie. C'est-à-dire, si vous accordez un discours, on vous dit, il vous faut changer en faisant ceci, en faisant cela, etc. Vous allez droit au mur. Ça va être un scratch. En fait, vous pourrez essayer tout ce que vous voulez, écouter toutes les sirènes des publicités qui vous parlent de changement, l'homme reste ce qu'il est. Par contre, Benoît emploie le mot transformer. Ah, alors là, c'est tout autre chose. Et là, il y a un travail à faire sur sa nature, qui touche la biologie, qui touche la physique, qui rejoint l'être humain pour ce qu'il est véritablement. Donc le mot transformation est une façon de parler aussi de d'ascèse. Voilà, il y a une transformation. Autre caractéristique de cette spiritualité, c'est la recherche d'intériorité et de vérité, toujours en lien avec une pratique. On n'est pas perché dans une tour, bien isolé, sans contact avec la réalité, la vie, tout cela. Cette quête d'intériorité appelle donc un à lire la parole de Dieu, qui est parole de vie, et qui t'invite à choisir soit la vie, soit la mort, soit d'être un vivant, soit de renoncer à la vie, qui t'invite aussi à une prière personnelle, c'est-à-dire une relation personnelle avec le Seigneur, avec ton prochain, avec toi-même. C'est toi qui es d'abord le prochain de ta personne. Et en même temps, une vie communautaire, c'est-à-dire en communion avec d'autres. Et là encore, on est toujours sur une relation à trois. Et puis, dans son directoire, Benoît, il dit, ce que je propose, c'est pour des personnes qui se mettent à l'école. S'il y en a qui peuvent aller plus loin, qui ne s'arrêtent pas, je ne veux pas les freiner. Mon directoire n'est pas le meilleur de tous. Non, c'est pour des débutants. Voilà. Donc cette humilité qui nous invite j'allais dire, à prendre en considération notre humanité. Le deuxième aspect, c'est cette quête se vit toujours dans un milieu qui est particulier. Ce milieu particulier, donc c'est un monastère où il y a une interaction entre le je, JEU, de l'être qui est unique, qui est seul, avec d'autres êtres. Et donc, comment ce jeu peut se faire? Et dans ce milieu qui est très très particulier, le monastère, eh bien, l'expérience de Benoît sera de parler du monastère avec d'autres noms et qui, rien qu'en les disant, vous font sentir ce que c'est. Il parle d'une maison de Dieu, maison. Voilà, c'est quelque chose où on vit, on est dans une maison, dans un lieu. Et de Dieu, parce qu'on est, j'allais dire, sous le regard de Dieu. On est avec d'autres, et tout le monde est sous le regard de Dieu. Il parle aussi d'une école, voyez. C'est toujours des dimensions, petites dimensions très humaines. Il parle d'un atelier. Il parle d'une famille. Il parle d'un corps. Et puis là-dedans, il dit des gens, ils doivent être zélés, c'est-à-dire qu'ils sans cesse, eh bien, ils doivent se remettre en question et en chemin chaque jour, chaque matin. Je me pose la question, je me redis la phrase qui m'a interpellé dans l'Évangile et qui a déclenché en moi ce désir de vivre cette écoute du Seigneur. Et rien que cet exercice de se reposer chaque matin, avant de faire quoi que ce soit, la toilette, de se dire ce mot, bien voilà, j'ai la journée pour le vivre. Et puis le soir, je vais reprendre ce mot qui m'a habité, le déposer et me disposer pour la journée du lendemain. Dans cette dynamique-là, on peut ajouter un troisième point, c'est que, et je vais arrêter là, ça nous amène en fait à une ouverture universelle. C'est-à-dire que le paradoxe, je quitte ma maison, je pars avec ma petite valise. C'est sûr que pendant la nuit, il y a eu quelques moments un peu de vertige, quoi. On n'a peut-être pas toujours passé une très bonne nuit avant de faire cela. On part avec cette petite valise. La veille, on a été voir le banquier pour dire, ben voilà, je vide mon compte en banque. Voilà, je quitte tout, je pars avec cette toute petite valise, un petit peu de linge et c'est tout. Les richesses de mon père, je les laisse pour les autres. Mais je n'ai qu'un désir, c'est plaire à Dieu seul. On peut se dire, C'est bien étroit tout cela. Et parcourant ce chemin-là, on fait cette expérience de retrouver le monde, mais alors sous le regard de Dieu. C'est-à-dire, j'accepte ce monde. Je ne me suis pas, entre guillemets, cassé de ce monde. Mais je sais que ce monde est là, et qu'il est toujours là, et que j'ai toujours plaisir à le retrouver. Et on le regarde sous la lumière de Dieu. C'est-à-dire dans cette notion de transcendance qui accompagne ce chemin d'immanence, on va dire cela comme cela. Voilà. Et le monastère devient, alors c'est un jeu de mots, mais c'est un laboratoire de vie, mais aussi un oratoire. Et l'enjeu du monastère, c'est de rester toujours un laboratoire. Donc c'est un rucher où ça grouille toujours en permanence. Il y a toujours des travaux dans un monastère, vous voyez. On remet toujours en question les installations, voilà. C'est un rucher permanent. Et c'est un oratoire où on vient, non pas pour se reposer, mais pour se disposer. Et l'enjeu du monastère est de permettre à l'humanité tout entière, c'est-à-dire au monde, c'est pas un lieu qui est sous haute surveillance, il faut c'est réservé qu'à certains. Non, c'est un lieu qui est ouvert aux autres. Pourquoi? Parce que c'est dans ces lieux-là que les chemins qui y vont, c'est souvent des chemins de réconciliation, d'unification intérieure, de fécondité. Voyez? Voilà. Ce n'est pas simplement qu'une petite départementale tortilleuse qui monte la colline. C'est aussi ces chemins-là. Et donc, la notion d'hospitalité est fondamentale. Qu'il y ait un oratoire, c'est fondamental. Et c'est le premier souci pour une communauté. Mère Priolle l'a rappelé plusieurs fois dans le parcours historique, elle vous a dit. La communauté, si elle est là, son premier souci, c'est construire le lieu de vie, construire une église, construire une hôtellerie, un lieu d'accueil, voilà, pour permettre à ces chemins de réconciliation, d'unification intérieure et puis de fécondité qui soient empruntés aussi par l'homme. Voilà. Merci.
Des hommes sur la colline de Belloc, la spiritualité de Saint-Benoît. Vous venez d'entendre l'intervention du frère Jean-François d'Allemand, prieur de l'abbaye Notre-Dame de Belloc. La semaine prochaine, vous entendrez la troisième et dernière partie de cette table ronde avec le témoignage de l'ancien maire de la Bastide-Clérance, Léopold Darichon, et la conclusion du père Bernard Devers, fondateur d'Habitat et Humanisme. La vocation des communautés présentes sur la colline de Belloc. Retransmission de la table ronde du 10 février 2023 à l'abbaye de Belloc en la fête de Sainte Scolastique.